mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des membres de ATTAC et des journalistes du PIAF.
Alors ce soir, une émission avec de longues chroniques d'actualité. Nous allons partir au fin fond de la Russie, nous allons revenir en France, vous parler de démocratie, et nous allons aussi et surtout parler d'Europe avec notre invité Frédéric Vial, qui va essayer de nous expliquer ce que pourrait être peut-être une autre Europe à l'approche de ces élections européennes, une Europe rêvée. Nous verrons ça tout à l'heure. Et nous commençons par aller voir au fin fond de la Russie, plus exactement à Vladivostok, à l'autre bout du monde, pour savoir comment s'est passée l'élection du gouverneur. Mais pas n'importe quelle façon, nous allons le voir au travers des médias russes.
Oui, j'ai voulu vous faire voyager un petit peu et éventuellement essayer d'avoir un petit aperçu des spécificités de la démocratie russe. Voilà. La région de Vladivostok est à 6400 km de Moscou, c'est-à-dire à 8 heures d'avion, 6 jours de train et 7 heures de décalage avec le centre, la capitale fédérale. C'est une région qui vit surtout de la pêche et des industries mécaniques liées à la pêche. Et c'est aussi une région qui a un important point national du point de vue de la défense, parce que Vladivostok abrite la majeure partie de la flotte du Pacifique. C'est une région qui subit de gros problèmes de coupure de courant. Plusieurs heures par jour, plusieurs jours de suite et surtout l'hiver, en raison de manque de liquidité des centrales électriques subventionnées par le pouvoir fédéral et le pouvoir régional.
Pourtant, à Tchernobyl, c'était bien liquide.
Hein. Merci Jean-Marc. C'est aussi une région connue pour son très fort taux de criminalité et de corruption, en particulier en lien avec l'industrie de la pêche et le transit portuaire. Qui est le gouverneur d'un sujet de la Fédération de Russie, parce que ce sont des sujets, les régions russes. C'est un homme qui est élu au suffrage universel direct. Autrefois, il a été, pendant une période, il a été nommé par le président de la Russie, qui avait aussi le droit de le destituer. Mais de nouveau, c'est le vote qui détermine qui dirige une région. Depuis 1993, la région de Vladivostok a été successivement dirigée par un type qui a créé les premières crises énergétiques, un autre, un mania de la pêche, qui a été élu puis nommé par Poutine, contraint à démission en raison de ses liens avec la mafia, un autre gars nommé par Poutine puis élu, mais poussé à la démission par manque de popularité en raison d'abus et de détournement de biens sociaux, et enfin le dernier en date qui a été nommé par intérim à la suite de la précédente démission, et qui, M. Tarasenko, et qui était candidat en septembre dernier à son poste, mais en tant que gouverneur élu cette fois-ci. Il faut savoir aussi que la région de Vladivostok, qui s'appelle le Primorié, a une tradition politique contestataire vis-à-vis du pouvoir central. Et ça, peu importe qui est à Moscou, l'enjeu du Primorié, donc de la région de Vladivostok, est de ne pas se faire oublier du centre.
Et de ne pas se faire bouffer par les Japonais.
Et surtout par les Chinois. Qui sont juste à côté, ils sont à la frontière, et dont ils ont extrêmement peur. Cette élection a lieu dans un contexte de mécontentement général à l'égard du pouvoir en place, en raison de l'annonce en juin de la hausse de l'âge de départ à la retraite. Les élections ont lieu en septembre, 5 candidats, les deux principaux, le gouverneur par intérim, M. Tarasenko, candidat officiel du parti Russie Unie, et M. Ishenko, présenté par le Parti communiste et président directeur général d'une entreprise de construction de bateaux de pêche. Le premier tour donne ces deux candidats avec un. Ils passent tous les deux pour ce premier tour avec environ 24% et 40%. Le deuxième tour a lieu le 16 septembre. Et là, au fur et à mesure du dépouillement des votes, les commissions aux élections, la commission centrale et la commission générale, affichent sur leur site une avance de 6 points en faveur du candidat communiste, jusqu'à 95% du dépouillement des votes. Brusquement, à partir de 99% du dépouillement, la situation s'inverse au profit du candidat Tarasenko. Donc de Russie Unie.
Ça reste mathématiquement possible. C'est fortement improbable, mais c'est possible.
Alors,
comme gagner au loto, tout à fait.
Il a gagné l'euro-million, le mec.
Les citoyens, les observateurs s'insurgent. Cette élection a été truquée. Les récits sont parfois cocasses. Par exemple, une présidente de bureau de vote arrive avec un protocole auprès de la commission. Le protocole ne correspond pas du tout à ce qui était annoncé par fax précédemment. La présidente du bureau de vote se met à pleurer et dit « J'ai de la fièvre, voici le protocole... »
Le bon.
En le sortant de son sac. Voilà, donc tout le monde s'insurge. La commission centrale aux élections donc de Moscou dit « À l'évidence, cette élection a été truquée. Je vous conseille de l'annuler. » La commission régionale accepte, annule ces élections et en fixe de nouvelles au 16 décembre. Tarasenko, donc le gouverneur par intérim, se retire de la course, revient sur sa décision, finalement renonce définitivement. Le 26 septembre, Poutine nomme un nouveau gouverneur par intérim. Le 27 septembre, donc le lendemain, un projet de loi autorisant la présence d'autocandidats, c'est-à-dire sans le soutien officiel d'un parti politique, les autorisant donc à participer aux élections, est voté par l'Assemblée législative régionale. Le lendemain, le gouverneur par intérim annonce sa décision de se présenter aux élections en tant qu'autocandidat, c'est-à-dire sans s'afficher comme Russie unie et se libérer donc du poids de cette réforme des retraites. Le 27 octobre, la conférence du Parti communiste au cours de laquelle devait être annoncé le soutien du parti à une nouvelle candidature d'Ishenko, donc celui qui aurait été élu si les élections n'avaient pas été truquées, est annulée, faute de locaux. Et on ne sait pas pourquoi la salle louée s'est avérée indisponible, brutalement. Le 3 novembre, le Parti communiste, qui a gagné des élections dans une autre région, dit que finalement, il ne soutiendra pas Ishenko aux nouvelles élections. Le 7 novembre, Ishenko se présente comme autocandidat, mais le 24 novembre, la commission régionale aux élections refuse la candidature d'Ishenko. 13 de ses signatures nécessaires pour se présenter sont déclarées invalides. Évidemment, le 16 décembre, les élections donnent le gouverneur par intérim victorieux, 61%, contre le candidat d'opposition générale LDPR. Donc c'est une opposition sans trop de lignes politiques. Voilà, donc c'est ainsi que Vladivostok se retrouve de nouveau dirigé par un gouverneur Russie unie.
Poutine a encore réussi, c'est quand même un grand homme. Non,
c'est un peu la même chose que Fillon-Macron, non?
ça s'y ressemble, mais il y a les sourcils en moins, peut-être. Non, je sais pas.
Alors j'ai quelques hypothèses sur ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que... à tous les niveaux, que ce soit au niveau local jusqu'au niveau national, par exemple la présidente de la commission aux élections centrales, les règles de la démocratie ne sont pas tellement importantes. La responsable, parce que la deuxième élection a été encore pire que la première, les falsifications ont été énormes, mais contrairement à la première fois, évidemment la présidente de la commission électorale n'a pas remis en cause les résultats. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est que le mécontentement à l'égard de Poutine du parti Russie unie, et en particulier depuis la réforme des retraites, a dépassé, dans le cas du primaurier, le souci qui d'habitude présidait aux précédentes élections de valider le candidat de Moscou afin de s'assurer le soutien fédéral. Et c'est sans doute une des seules régions de Russie où les citoyens ont opté pour le vote pour manifester ce mécontentement. Je voulais aussi évoquer les possibilités d'une erreur de casting. Dans l'organisation de la Russie actuelle, Poutine s'assure de présenter des candidats au poste de gouverneur qui peuvent satisfaire les citoyens, afin de sceller une sorte de pacte de légitimité. Et là, l'erreur de casting, le premier candidat n'a pas du tout plu. Et je voulais enfin... parler du fait que le candidat finalement élu est assez représentatif des candidats que Poutine essaie de promouvoir, c'est-à-dire parce qu'il est lui aussi chef d'une PDG d'une entreprise de construction navale. Poutine essaie de présenter des hommes qui ne sont pas des hommes politiques, mais des managers. Et en ce sens, ce nouveau gouverneur correspond tout à fait à la nouvelle génération de professionnels de la politique promus par le gouvernement.
C'est la Russie en marche.
Ah, voilà. Ce que je voulais juste conclure en disant que tout ce que je vous ai raconté là est issu de la presse russe et que tous les journalistes ayant écrit ces articles sont à ce jour vivants.
Mais un peu
en
trop
prison, mais vivants.
Mais loin de Moscou, ils habitent à Vladivostok.
La presse centrale a beaucoup suivi cet événement.
Comme quoi, il y a d'autres démocraties. C'est ça ?
Non ? Voilà.
J'ai dit n'importe quoi.
Non, tout à fait.
Alors, on continue avec l'actualité. Et nous allons donner la parole à Jean-Marc, qui est parmi nous en chair, en os et en
direct.
En direct. Et sa première intervention, c'est, vous allez comprendre, j'espère, enfin, j'espère aussi comprendre, ne pas confondre vache noire et griveau.
Alors, l'opportuniste Benjamin Griveaux, qui est un peu vache à ses heures, surtout quand il essaye de faire de l'esprit, a eu un petit peu chaud au miche la semaine dernière, puisqu'il s'est fait enfoncer la porte de son ministère et qu'on a dû l'exfiltrer. Il est parti la queue entre les jambes, courageusement, pour ne pas faire face aux gilets jaunes. Alors, le gouvernement, la droite bien pensante, la presse aux ordres, à la place d'y lire de l'audace et de la révolte, contre les propos insultants tenus la veille par ce même Griveaux, porte-parole de la Macronie et de son insupportable suffisance, n'y voit que brutalité et voyouterie. Certes, ce n'est pas très malin de défoncer une porte, mais les gilets jaunes sont maintenant tous taxés d'être des factieux, des séditieux, des anti-républicains et bien d'autres choses encore. Macron, Philippe Pénicaud et toute la clique infernale pourraient peut-être, avant de lancer tant d'anathèmes, se rappeler que la République en France est née de la trahison du roi, tiens, déjà, de la provocation de l'imbécile Brunswick avec son manifeste aussi imbécile que lui, qui ont provoqué la prise des Tuileries le 10 août 1792, et que cette prise des Tuileries ne s'est quand même pas fait sans qu'il y ait quelques œufs cassés, puisque les historiens estiment qu'il y a eu entre 600 et 900 morts entre le 10 et le 11 août 92 et dans les jours qui ont suivi et qui ont provoqué la chute de la monarchie. Donc les exactions horribles des gilets jaunes de ce début de 21e siècle sont un peu rigolotes par rapport à cette base de la République, cette République tant vantée par Monsieur Macron et sa clique. Alors opposer violence populaire et République est juste un non-sens, une illusion qui vise à donner tous les torts au peuple et à justifier la répression de ce même peuple par ses élites.
Alors, il y a quand même des gens pour défendre tout ça. Il y a quand même le parti, les partis politiques. Par exemple, le parti des gens trop intelligents, par exemple.
Alors, le parti des gens trop intelligents, vous savez, c'est ce parti ultra-majoritaire à l'Assemblée qui fait tout, et surtout rien. La République en marche, selon l'un de ses dirigeants, est un parti trop intelligent. On s'en rappelle, c'est pas si vieux que ça, ça a 15 jours. Et il est trop intelligent, ce parti, pour être compris par le commun des connards, à savoir les Français. Ce parti trop intelligent n'en finit pas, cependant, de surprendre le connard que je suis. En plein mouvement social, par exemple, Pénicaud, cette chère ministre du Travail et surtout du Chômage, pénalise durement les chômeurs. C'était son cadeau de Noël de ministre et de femme de cœur. Bien connue, d'ailleurs, elle est connue pour son grand cœur. Alors que la France entière critique le pouvoir et son action, le président et le gouvernement, un rien paradoxal, annoncent un grand débat. Et en même temps, affirment qu'ils vont poursuivre exactement la même politique. Pourquoi faire un débat si on poursuit la même politique ? Phare de la pensée moderne, Aurore Berger déclare vouloir dénoncer les responsables politiques parce qu'ils n'ont pas assez critiqué les violences. C'est un nouveau délit.
Oui.
C'est un nouveau délit de ne pas critiquer assez les violences. Autre penseuse qui a les dents longues et qui lèche bien toute la hiérarchie pour essayer d'avoir un meilleur poste en cadre de recomposition d'un nouveau gouvernement, Marlène Schiappa. Elle va très loin. Elle parle d'une cinquième colonne italienne qui financerait manifs et débordements. On va non, c'est exact, hein, je n'invente rien. Sans oublier le grand Édouard qui veut arrêter les manifestants avant qu'ils ne se manifestent, tout en affirmant son attachement au droit de manifestation. Bref, si les élus LRM perdent leur fonction, ce qui pourrait toujours leur arriver, peut-être pas tout de suite mais dans quelques temps, ils pourront toujours collectivement créer une école de philosophie. Je suis certain que le nouveau président brésilien, autre grand intellectuel bien connu, les accueillera à bras ouverts. Ou à Brasilia.
Oh, bravo. Mais en fait, avec toutes tes belles idées, tu as dû trouver la solution.
Eh oui, j'ai trouvé la solution à force de me creuser la tête et de regarder les grands médias français, LCI, BFM, tous ces parangons de la presse internationale. J'ai trouvé la solution. Alors que les samedis se suivent et commencent à se ressembler, c'est d'ailleurs, ça lasse même BFM, avec leurs manifs, leurs débordements, leurs répressions démesurées et leur lot de condamnations plus ou moins justifiées, j'ai trouvé la solution pour que ça s'arrête et que tout le monde en plus soit content. Sachant que les munitions employées par la police coûtent entre 40 et 120 euros pièce. C'est un petit problème de mathématiques. Il y a des trains et tout. Et sachant, par exemple, que selon la préfecture elle-même, le fameux samedi de l'Arc de Triomphe, on a été tiré plus de 10 000 rien qu'à Paris. Soit en faisant une moyenne, 80 euros pièce, 800 000 euros. Je propose que les forces de l'ordre, ce qui les rendrait tout de suite très sympathiques et audibles, balancent désormais des billets de banque sur les manifestants, au sol ou à tir tendu, ça passera aussi bien en l'espèce, c'est le cas de le dire, ça ne coûterait pas plus cher, ce serait plus efficace et tout le monde serait content. C'est QFD, comme on dit dans la gendarmerie nationale.
On vérifiera les calculs quand même, on vérifiera.
Ah, je suis pas prof de maths, hein.
Mais bon, le thème, c'est pas être en France, là, quand même. On veut essayer de s'ouvrir l'esprit. Nous allons bientôt avoir notre interview avec Frédéric Vial sur le thème de l'Europe. Mais Jean-Marc voulait nous apporter son petit point de vue sur les institutions.
Bah oui, parce que le problème qui est sous-tendu dans tout ça, c'est le problème des institutions, celle de la Ve République, mais aussi, au-delà de la France, le problème des institutions européennes. Alors, les institutions de la Ve République ont été fabriquées sur mesure il y a 60 ans pour le grand Charles, qui lui-même les décrivait comme une monarchie parlementaire. Ce côté monarchique a volontairement été renforcé en 62 avec l'élection du président au suffrage universel direct. Puis, de manière fortuite, sous Chirac, c'était pas tout à fait prévu, mais ça s'est passé comme ça, par le passage au quinquennat, qui en concordant présidentiel et législative a fini d'achever la dégringolade du Parlement, plus rabaissée que jamais. L'autre joujou gaullien, l'ENA, fondée en 1945 lors du gouvernement provisoire, a d'abord fourni d'éminents administrateurs, pour ne plus être aujourd'hui qu'un élevage hors sol de bureaucrates d'élite qui alternent entre administration et conseil d'administration. Ces deux dérives fort préjudiciables à la démocratie, associées à la prégnance de plus en plus importante de la fort peu démocratique Commission de Bruxelles et à la quasi-disparition de la presse indépendante, mettent la démocratie au service d'une oligarchie sans scrupules qui peut, à coup de millions et de campagnes d'opinion, faire élire les pantins qu'elle estime les plus à même de faire aboutir sa soif insatiable de pouvoir et d'argent. C'est le syndrome Macron. La crise actuelle et la détestation qui entoure ce personnage, certes méprisable, ne sont que les symptômes d'une démocratie détournée et malade, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Ce ne sera certainement pas le grand débat alibi qui commence la semaine prochaine qui changera la donne, car pour les dirigeants actuels, il ne s'agit que de réendormir le bon peuple pour continuer son asservissement. Le gouvernement n'a-t-il pas annoncé le 29 décembre le durcissement très idéologique des mesures de radiation des chômeurs? Et Macron n'a-t-il pas annoncé qu'il irait jusqu'au bout des réformes? Et hier encore, notre cher Premier ministre a été voir ses partenaires européens pour les assurer qu'il continuerait les réformes et le programme de réformes voulu par l'Europe, juste à la veille du grand débat. Le pire, c'est que les institutions françaises comme les institutions européennes permettent aux élites, et c'est bien tout leur sens, de conserver légalement le pouvoir en l'absence de toute légitimité. Mais pour combien de temps encore? Et avec quoi au bout? Une révolution totale, une répression sanglante, un éclatement de l'Europe avec le retour des nationalismes, un avènement généralisé du trumpisme, un retour du fascisme, nul ne le sait. Sans constituante et sans sixième république, l'avenir semble pour le moins compliqué et sombre en France, mais aussi en Europe.
Même si vous n'avez pas l'image, je vous assure que Jean-Marc n'a pas de gilet jaune sur lui aujourd'hui. Mais nous allons écouter un autre européaniste convaincu. C'était en 1985. Il explique que l'Europe est un peu en construction lente. Vous êtes lent, Alain Souchon.
Sur. Allez, oui.
l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et l'émission Mode d'emploi de Fréquence Paris Pluriel rebondit avec l'interview de Frédéric Vial, interviewé par Gaël. Ils vont parler d'Europe.
Oui Frédéric, bonsoir. Tu es militant altermondialiste, tu as animé plusieurs campagnes contre l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce et les accords de libre-échange. Tu es en particulier l'auteur d'un manifeste contre les traités transatlantiques en 2015. Et qui dit accord de libre-échange dit Union Européenne, qui est motrice dans ces affaires. Et donc tu t'es intéressé aussi beaucoup au fonctionnement de l'Union Européenne. Et donc ce parcours t'amène aujourd'hui à être candidat aux élections européennes du printemps sur la liste France Insoumise. Alors dans tes interventions, tu décris souvent l'Union Européenne comme une machine antidémocratique. La question à laquelle on va essayer de réfléchir ce soir, c'est est-ce qu'on peut imaginer, en supposant qu'on ait une majorité de gauche, de vraie gauche au Parlement européen, une politique de gauche économique, écologique et sociale, voire anticapitaliste, pourquoi pas, au niveau européen. Alors, première question, on va faire un exercice. On suppose qu'on reste dans les traités actuels. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de gauche avec une majorité de gauche au Parlement européen ?
Rien.
Bien. C'est-à-dire au revoir, à la prochaine fois.
Non, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas raconter de carabistouille aux gens. C'est pas parce qu'il y aurait par hasard une majorité de gauche au Parlement européen que d'un seul coup, il y aurait la possibilité de changer l'Union européenne de l'intérieur. Ça, si on raconte ça, on dit des bêtises. Hein. C'est complètement faux. Il y a pour cela au moins une bonne raison, mais il y en a plusieurs. La première, c'est que dans les traités eux-mêmes qui fondent le fonctionnement de l'Union européenne, il y a les quatre libertés fondamentales qui sont dans les traités, donc, hein, je viens de le dire. Les quatre libertés, c'est les libertés des capitaux, les libertés du commerce, les libertés des services et la liberté des travailleurs salariés, c'est-à-dire d'utiliser les travailleurs salariés et de les détacher d'un pays à l'autre. Voilà. Ces quatre libertés-là ne sont pas, il n'est pas possible pour le Parlement européen d'y toucher. Il n'est pas possible pour le Parlement européen d'y toucher. Donc à partir de là, dès lors que on ne peut pas toucher à la liberté de mouvement des capitaux, on peut mettre directement à la poubelle les histoires de justice sociale. On n'en parle pas. C'est pas la peine, puisque liberté de mouvement des capitaux. Liberté de service. Donc à partir du moment où il y a liberté des services et liberté du commerce, on peut mettre aussi la transition énergétique directement en classement vertical. Parce que, nécessairement, quand on fait de la transition énergétique, à un moment donné, il faut prendre une réglementation dans laquelle on dit que, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne pourront pas faire ce qu'elles font aujourd'hui. Donc, il va falloir décourager des amis du peuple, on en parlait là récemment, comme Total, comme BNP, enfin bon, je fais pas la liste, hein, vous la connaissez, et leur dire non, voilà, c'est terminé, là, on va orienter un certain nombre de choses différemment par la loi. Non, le Parlement européen n'a pas cette capacité-là. Ensuite, il y a une autre raison, c'est que le Parlement européen n'a aucune vue sur les budgets, sur les contributions des budgets au budget européen, d'une part, c'est pas lui qui décide, ce sont les États membres, et par ailleurs, la Commission, dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen pour ce qui concerne les membres de la zone euro, dont la France, la Commission a la possibilité de contrôler les budgets nationaux avant qu'ils soient votés. C'est-à-dire s'ils sont bien dans les clous des fameux 3% de la ligne de remboursement, de la ligne de remboursement de la dette. Le Parlement européen n'a strictement aucune vue là-dessus. Alors, il pourrait, pris comme ça d'un grand vent de révolution, faire un petit peu le coup des baïonnettes, du jeu de paume et dire c'est nous qui sommes la légitimité, et donc puisque c'est nous qui sommes la légitimité, nous refusons à la Commission, nous refusons au Conseil de faire telle et telle chose. Mais ça, on n'y est pas. Je veux dire que par là, il faudrait une rupture absolument fondamentale. Or, dans l'hypothèse qui a été soulevée jusqu'ici, c'est que on reste dans le cadre des traités. Donc, dans le cadre des traités, on peut
Dans le cadre des traités, quand même, les traités n'interdisent pas tout en matière d'écologie, notamment. Le Parlement européen peut fixer des normes sévères, voire plus sévères que celles qu'on a en France.
Le Parlement européen n'est pas nul. Hein. c'est pas une chose qui sert à rien. Il y a souvent, j'entends des gens qui disent c'est un ectoplasme qui sert à rien, c'est comme une grosse méduse qu'on pose là et qui n'a aucune utilité. Non, c'est pas vrai. Parce que il peut quand même arrêter un certain nombre de grosses horreurs qui sont en cours. Il y en a quelques-unes là qui sont annoncées, qui sont mises un peu en file d'attente en attendant les élections. Hein. C'est classique, 6 mois avant, on met un certain nombre de saletés avant. On les vote pas tout de suite, quoi, sinon ça se verrait trop. Et on attend la prochaine mandature. Donc la prochaine mandature, si elle devait être de gauche, on est dans cette hypothèse-là, mais on n'est pas loin de Noël, ça doit être ça. Si elle devait être de gauche, alors à ce moment-là, oui, elle pourrait bloquer un certain nombre de choses. Ce en quoi ce n'est pas inintéressant d'avoir des députés de gauche.
Hein? Alors, bloquer, c'est une chose, mais est-ce que le Parlement européen pourrait, par exemple, réorienter, par exemple, les projets de l'Union européenne en matière de commerce international, c'est-à-dire forcer la Commission ou les négociateurs de l'Union européenne à négocier des accords de commerce internationaux qui soient respectueux de l'environnement, du droit du travail et de ces choses-là.
Évidemment, le Parlement européen pourrait prendre ce genre de décision, dans l'hypothèse donc où il serait de gauche. Il prend ce genre de décision. La Commission, à ce moment-là, elle a deux possibilités. Soit elle réagit de manière politique et elle dit « Bon, je prends note que le Parlement européen, qui a quand même une légitimité d'organisme élu, me demande de faire ça. Je suis pas juridiquement contraint de le faire, mais je le fais quand même. » Ça, c'est dans une hypothèse vraiment haute, c'est-à-dire dans l'hypothèse où nous aurions une commission qui serait soutenue par un Parlement de gauche et qui donc aurait une attitude qui pourrait être plus de gauche. Ou bien la commission dit « Ah non, non, c'est contraire aux traités fondamentaux, puisque c'est contraire aux traités fondamentaux que le Parlement européen s'occupe de ce qui est une compétence exclusive de l'Union européenne et qui découle et qui donne à la Commission le soin de négocier sur mandat des États membres. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et là-dessus, la Commission peut dire non, non, le Parlement européen ne peut pas s'occuper de ça. On peut penser que s'il y a un Parlement de gauche, il pourrait politiquement dire à la Commission soit tu fais ça, soit je te vire. Parce qu'il a la possibilité de virer la Commission. Donc encore une fois, le Parlement, ce n'est pas nul. C'est pas un truc qui sert à rien. Il faut juste pas raconter de choses fausses aux gens en disant demain on gagne les élections. Je veux dire voilà, il y a 50, il y a pas seulement les 78 postes d'élus LFI qui sont possibles, mais il y a aussi en Allemagne, en Italie. Enfin bon, admettons. Effectivement, il y aurait une réorientation possible de ce point de vue, parce que le Parlement a la possibilité de virer la Commission. Mais se poserait un autre problème qui serait très sérieux, qui est l'assentiment des États membres. Parce que les États membres s'appuient sur, et c'est normal, les traités internationaux qui instituent l'Union européenne. N'importe quel État membre qui serait en désaccord avec le fait de revoir la politique commerciale de l'Union européenne pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne et dire « Non, non, le Parlement européen ne peut pas s'occuper de ça. » Et la Cour de justice de l'Union européenne, bah oui, elle ferait quoi? Normalement, elle applique les traités. Et elle serait bien obligée de dire « Bah oui, vous avez raison, le Parlement européen n'a pas le droit de s'occuper de ça. Lui, le Parlement européen, il a le droit de dire oui ou de dire non sur chaque traité. Il n'a pas le droit de décider de la politique commerciale commune. » Bon, voilà. Donc, ça changerait les choses. C'est une certitude que ça changerait les choses, mais pas de manière aussi fondamentale qu'on pourrait l'espérer, par exemple.
Alors,
et sur l'euro, rien. Hein.
Si on ne peut pas faire grand-chose dans le cadre des traités, est-ce que le Parlement européen a les moyens de faire changer les traités?
Eh bien non, parce que, alors encore une fois, sauf s'il fait comme a fait le tiers-État au moment du serment du jeu de paume, c'est-à-dire, vous vous souvenez, le tiers-État qui se réunit et qui dit, enfin le troisième tiers, hein, c'est-à-dire le tiers des non-privilégiés, dit bon bah c'est nous la nation, c'est plus le roi, c'est nous. Et là, il faudrait que le Parlement dise bah c'est nous qui représentons l'intérêt général de l'Union européenne, c'est plus la Commission, c'est plus le Conseil. Sauf que là, on est en dehors des traités. Donc ça veut dire une rupture dont on voit mal comment elle pourrait se concrétiser, mais en tous les cas, s'il y a cette rupture politique, ce serait très intéressant. On n'y est pas, hein. Mais dans l'hypothèse que tu as formulée, oui, ça pourrait être intéressant. Mais ça veut dire qu'il y aurait inévitablement un certain nombre d'États qui pourraient dire, attention, on est en dehors des traités, donc là, vous faites exploser l'Union européenne. C'est-à-dire que vous revenez sur un traité, et parce que c'est dans les traités que sont inscrits fondamentalement, les traités sont adoptés à l'unanimité des États membres, pas du Parlement.
D'accord, donc c'est
pas à l'unanimité des peuples non plus.
Nous sommes dans des démocraties délégataires, comme tu as remarqué. C'est-à-dire dans lequel nous élisons un monarque et qui décide pour tout le monde pendant 5 ans.
Non, je pensais au précédent agréable de 2005, bien sûr.
Oui, bien sûr.
On a bien respecté les volontés du peuple.
J'allais le dire.
Donc en fait, pour changer les traités, il faudrait déjà sortir des traités, faire une sorte de coup de force démocratique. Sinon, ça ne serait pas possible.
Actuellement pour l'Europe. Nous travaillons actuellement pour l'Europe.
Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous interviewons Frédéric Vial, militant altermondialiste et candidat aux élections européennes. Alors, les perspectives au niveau du Parlement européen semblent assez compliquées pour mener une politique de gauche au niveau européen. Alors, on va prendre les choses autrement. Pour la gauche européenne, quelle est la bonne stratégie ? Est-ce qu'il faut essayer de construire une Europe fédérale qui impose dans toute l'Union européenne une politique de gauche, ou bien est-ce qu'il faut réduire le fédéralisme de l'Union européenne pour construire des politiques de gauche à l'abri des frontières nationales?
Dans la situation actuelle, il me semble qu'il n'y a pas tellement, de choix. Construire une Europe fédérale qui imposerait des politiques de gauche serait l'idéal, d'un point de vue théorique, mais seulement d'un point de vue théorique. Parce que d'un point de vue pratique, on n'y est pas du tout. Puisqu'il faudrait, à traité constant, qu'il y ait une unanimité des États membres, et donc que dans le même temps, il y ait un changement de majorité dans tous les États membres. On est dans quelque chose qui est pratiquement infaisable, y compris, et bien sûr qu'il n'aura pas lieu aux élections prochaines, mais qui n'aura jamais lieu. La force politique qui est capable de militer dans quelque chose comme une vingtaine de langues, parce qu'il y a le problème des langues aussi, on milite chacun dans sa langue, on milite chacun sur un territoire, on milite en fonction de son histoire. Et ça, la force politique qui est capable de faire la rupture nécessaire, en tous les cas celle que nous appelons de nos voeux, dans l'ensemble des États membres, n'existe pas.
Vladimir Poutine ?
C'est-à-dire que Poutine, Vladimir Poutine lui-même est le président d'une fédération qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc il est hors jeu, hein ? Non, cette force n'existe pas. Alors, on peut espérer trouver des alliances ici, là ou ailleurs, dans certains pays. Et d'ailleurs, les choses se font. Et le mouvement altermondialiste travaille à ce type d'alliance. Et il y a aussi des alliances qui sont faites par puisque je suis candidat à la France Insoumise, j'en parle, qui sont faites au niveau de la France Insoumise avec les Espagnols, avec les Portugais et quelques autres comme ça. Mais en dehors de ça, cette force-là politique n'existe pas. La seule solution envisageable, c'est qu'à un pays qui a un poids réel, un poids sérieux, opère les ruptures nécessaires au moment où c'est possible. Avec d'autres, si c'est possible, sans les autres, si c'est nécessaire.
Mais alors, si on cherche à faire une politique de gauche à l'abri des frontières nationales, on n'évite pas, d'un point de vue pratique, le dumping social et fiscal des autres États.
Oui.
Est-ce que là, il n'y a pas à articuler on va dire, souverainisme de gauche, entre guillemets, avec une politique au niveau européen pour limiter cet effet néfaste.
C'est exactement la difficulté. C'est exactement la difficulté parce que, pour le dire autrement, péter l'Union européenne pour péter l'Union européenne, ça n'a pas de sens en soi. Je veux dire par là que si c'est pour péter l'Union européenne pour faire exactement la même chose, mais au niveau national, ça n'a pas d'intérêt. C'est ce qui se passe au niveau britannique et ça n'a pas d'intérêt. Les Britanniques vont avoir, avant ou après être dans l'Union européenne, le même type de politique, peut-être même pire encore après, du point de vue de la sauvagerie libérale. Et pourtant, ils nous ont beaucoup précédés dans ce domaine-là. Donc ça n'a pas d'intérêt. Et donc, il y a une nécessité d'articuler effectivement avec une autre politique et donc de chercher un certain nombre de compromis. Et il y a aussi, avec nos partenaires naturels que sont nos voisins, et il y a aussi une autre nécessité, c'est que aujourd'hui, la puissance de feu des marchés financiers est telle qu'on ne peut pas espérer de manière sérieuse, en tous les cas on ne peut pas faire croire de manière sérieuse qu'on va réussir à lui faire pièce juste parce que on a décidé de le faire dans notre coin. Dans notre coin, on peut faire beaucoup de ruptures, on peut reprendre la main, on peut y compris lutter contre les paradis fiscaux de manière efficace, par exemple, hein, puisque Attac en parle beaucoup. Mais on ne peut pas imaginer qu'on va pouvoir re-réglementer la finance internationale juste parce que nous, les Français, on a décidé de le faire. En revanche, le fait de dire, on se met, à un moment donné, on fait les ruptures nécessaires, on se met autour d'une table, ce qui est en soi est une rupture en disant la France siffle la fin de la partie, il y a un certain nombre de choses maintenant qu'il n'est plus possible de faire et on négocie un autre mode de fonctionnement, ça peut être jouable, à la condition d'avoir la volonté politique de le faire. C'est ça. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas si je le dis bien ou si je le dis pas bien, mais c'est pas très important à ce stade, c'est l'histoire du plan A, plan B. C'est l'histoire de dire, de toute façon, il va falloir mener des ruptures et de toute façon, il va falloir articuler et construire quelque chose d'autre immédiatement. Soit en commençant par négocier puis en menant les ruptures, soit l'inverse. Alors après, il y a des discussions. Bon, la France insoumise dit on commence par discuter et ensuite on fait les ruptures. Il y en a d'autres qui disent l'inverse, mais à ce stade, c'est pas très grave. L'idée générale, c'est véritablement d'articuler les ruptures nécessaires avec la construction d'autre chose.
Mais aujourd'hui déjà, certaines ruptures sont possibles, puisqu'on le voit bien, le président Macron dépasse allègrement les 3% de budget, de déficit budgétaire. Mais il y a peut-être une faille dans les possibilités de rupture, c'est la partie monétaire. Si on rompt avec l'Union européenne, on rompt aussi avec l'Union économique et monétaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une fragilisation de l'économie si on rompt avec cette Union économique et monétaire ?
C'est la question la plus difficile parce que c'est la question monétaire est la question la plus irrationnelle. Étant donné que l'argent, ça trimballe aussi des choses, c'est pas seulement de l'argent, c'est un lien social. Et évidemment, là, on touche à quelque chose qui est une des peurs fondamentales. Enfin, à partir du moment où on a 3 euros sur un compte en banque, on commence à craindre de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Enfin, qu'est-ce que va devenir ma paye? Qu'est-ce que va devenir l'héritage de Tati Daniel? Qu'est-ce que va devenir l'appartement que j'ai acquis ou la maison ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui sont qui doivent pas être prises par-dessus la jambe parce que ça fait peur. Ceci dit, on peut essayer de traiter ça d'une manière un petit peu rationnelle. Il y a, concernant la question monétaire, un certain nombre de nécessités. C'est immédiatement de bloquer deux choses. Dès que un gouvernement, mais là on n'est pas en train de parler des élections européennes, on est en train de parler de l'étape d'après. On est en train de parler de l'hypothèse où un gouvernement de gauche arriverait en France, puisque c'est ce qui nous concerne, puisque nous sommes en France. Le jour où il arrive, pas le lendemain ni le surlendemain, le jour où il arrive, il faut rétablir le contrôle du mouvement des capitaux. Et là, on est en rupture avec l'Union européenne. Mais comme tu l'as indiqué tout à l'heure, lorsque c'est un gros pays qui fait ça, on est dans quelque chose qui, au niveau européen, où on commence à se dire, bon, là, c'est pas la Grèce, quoi. La France n'est pas la Grèce, et le pari, c'est d'avancer sur cette question-là. Rétablir le contrôle sur les mouvements des capitaux, et l'autre chose immédiatement, c'est de reprendre la main immédiatement sur la Banque centrale. La Banque de France existe toujours, hein, elle fait simplement partie de la Banque centrale européenne. Reprendre la main sur la Banque centrale. Et là, lui ordonner quelque chose de fondamental pour éviter ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire d'assurer la liquidité de l'économie. Parce que en Grèce, ce qui s'est passé, il faut absolument pas recommencer ça. Ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, la BCE a fait quelque chose de parfaitement illégal. Elle a bloqué le robinet à liquidité. Et donc, le Premier ministre grec, que je défends pas en l'occurrence, ni là ni à aucun moment, le Premier ministre grec s'est trouvé devant la situation où il fallait qu'ils prennent une décision, soit ils pliaient devant la BCE, soit ils pliaient pas, et s'ils pliaient pas, il y avait pas de billets le lundi matin dans les distributeurs. Et donc là, c'était l'émeute quand même. Donc ça, il faut éviter absolument ça. À partir de là, c'est aussi un travail pédagogique que de dire que les choses peuvent se faire de manière ordonnée. Alors, il y a plusieurs possibilités qui sont sur la table. À ce stade, je pense que ça relève du débat. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la prétention de dire quelles sont les possibilités. Certains disent qu'il faut sortir définitivement de l'euro et créer un franc ou reprendre une monnaie nationale qui soit directement indexée ou mise en lien avec l'euro directement. Bon, il y a aussi, alors avec ce que ça peut poser comme difficulté en termes d'approvisionnement internationaux. Et puis, il y a aussi ceux qui disent, mais on n'a pas besoin de rompre formellement avec l'euro. Il suffit qu'on reprenne la main sur la Banque centrale et que la Banque centrale émette sur l'ordre du gouvernement les liquidités nécessaires. Et à partir de là, on est en mesure de renégocier des nouvelles règles. Personnellement, j'aurais tendance à parler de ça. Mais je vous invite à considérer que, enfin, je vous invite les gens autour de cette table, que le débat qui arrive pour les élections européennes, ça va pas se traiter là-dessus, parce qu'encore une fois, le Parlement européen n'a aucun pouvoir sur la politique monétaire, aucun. Donc là, la chose, elle est réglée par les élections européennes. On peut en parler, mais pour l'étape suivante. En tous les cas, là, pour l'élection européenne, le Parlement européen ne pourra rien faire sur la politique monétaire.
Mais Dupont-Aignan va rentrer en dépression, là.
C'est grave.
Donc là encore, pour ce qui concerne la Banque Centrale Européenne, les 3% de déficit, les politiques d'austérité, le seul moyen d'agir du Parlement européen, ce serait un coup de force politique. Et rien n'est possible dans les règles actuelles.
Ah, mais dans les traités actuels, de toute façon, les choses sont clairement établies, le rôle de chacun est clairement établi, le Parlement européen est en co-décision sur un certain nombre de choses, et un certain nombre de choses qu'il ne décide pas.
Et est-ce que c'est le mot de la fin? Parce qu'on a envie d'espoir, on a envie de voir une élection qui peut servir à quelqu'un, aux gens.
Oui.
On peut quand même finir sur une petite note positive.
Mais oui, et pourquoi est-ce que je vais m'enquiquiner à me présenter, hein, c'est d'ailleurs un plaisir, aux élections par exemple. À quoi ça servirait d'avoir des parlementaires de gauche au Parlement européen? À deux choses. au fait qu'il y a effectivement un certain nombre d'horreurs qui sont dans les tuyaux là, qui arrivent aussi bien. Alors moi je vois surtout les horreurs qui sont sur les accords de libre-échange. C'est la déferlante là qui attend, hein. Là jusque là on a vu une vaguelette, là il y a un tsunami qui arrive avec, j'en ai compté 12, mais peut-être qu'il y en a, il y en a certainement que je connais pas, qui sont quelque part dans les coins. Bon, donc déjà ça c'est important parce que on a besoin de gens sur place qui seraient des lanceurs d'alerte. Je le vois moi comme militant dans le mouvement social, on a besoin d'avoir des relais au Parlement européen pour savoir ce qui se passe et pour lancer les mobilisations. Aucune des mobilisations que nous avons lancées sur l'OMC, sur le TAFTA, sur le CETA ne nous permet de dire qu'on peut se passer d'avoir des relais au Parlement européen. Et donc ça veut dire que même si on est conscient des limites du Parlement européen, encore une fois qui n'est pas nul, hein, si on est conscient des limites, néanmoins, on a besoin d'avoir ces lanceurs d'alerte.
Et ces lanceurs d'alerte, ils nous parlent d'Europe. Alors, il y avait un lanceur d'alerte de 1957 qui s'appelait Jean Pépi, la chanson de l'Europe.
Et puis pour emmerder la commission, c'est toujours une bonne idée.
J'ai trop de brume, hein, mon ami dit tête en cadeau de Noël, et nous danserions tous la nouvelle cadence d'un pays merveilleux au passé éternel. Et pourtant.
Alors nous reprenons l'antenne, nous sommes bien sûr Mode d'emploi, Fréquence Paris Pluriel, et nous avons parlé d'Europe avec Frédéric Vial, notre invité, mais maintenant c'est Alex qui va nous parler d'industrie européenne et d'industrie française.
En fait, plus précisément de désindustrialisation. Bon, j'étais un petit peu coincé. Alors hier, je pose la question à Pierre, qu'est-ce que je vais faire ? Puis il me dit, ouais, tu peux parler de l'industrie en Amérique, en Europe. Ok, allons-y. Donc, y a-t-il désindustrialisation ? Alors si je prends la France par exemple, les chiffres parlent, hein. L'industrie ça représentait 35% du PIB en 1970, 13% en 2015, ça représentait 6 millions d'emplois en 1973, 3 millions en 2015. Donc effectivement sur le long terme il y a désindustrialisation. Est-ce que c'est un problème ? Alors ça peut paraître une question un peu bizarre, un peu étrange.
Brigitte m'a dit que non parce que ça sentait moins la sueur.
Voilà, alors... On pourrait avoir ce point de vue-là, mais si on va en Lorraine, si on va à Saint-Étienne, si on va à Roubaix, à l'évidence, il y a un problème. Si je sors de la France, je vais dans ce qu'on appelle le Black Country en Angleterre, c'est pareil. Si je vais aux États-Unis du côté de Détroit, c'est l'enfer. Donc la désindustrialisation, ça a quand même des effets sociaux qui sont assez importants. Et en même temps, il y a chez les économistes tout un tas d'arguments, et d'arguments qui sont pas idiots, pour nuancer ça, voire considérer la désindustrialisation comme étant un problème tout à fait secondaire. Premier point de vue, ça consiste à dire, si on a une désindustrialisation en apparence, c'est beaucoup lié à l'amélioration de la productivité. C'est-à-dire qu'en moyenne, dans l'industrie française, on a plus 3% de productivité par an, alors que dans le reste de l'économie, c'est 1,2%. Et plus on a de productivité, plus on peut remplacer des travailleurs par des machines, on peut automatiser, on peut produire plus en utilisant moins de travail, donc moins de travailleurs.
D'ailleurs, Renault tourne sans Carlos Ghosn.
Le progrès détruit l'emploi. Un autre point de vue qui consiste à dire, il y a un problème statistique. En fait, quand on fait ces statistiques-là, on exagère la désindustrialisation. Il y a un certain nombre d'emplois industriels qui sont classés comme tertiaires, parce que ce sont des services aux entreprises. Autrement dit, on a un ensemble d'entreprises industrielles qui ont décidé d'externaliser une partie de leur activité, de les confier à des entreprises qui sont spécialisées dans les services aux entreprises et qui sont classées, elles, comme des entreprises du tertiaire. Donc, les gens font exactement le même boulot, un manutentionnaire, par exemple. Avant, il était classé ouvrier, maintenant, il est classé employé. Troisième argument, l'argument de la mondialisation heureuse, la fameuse fable de la mondialisation heureuse. L'industrie française se développe, et se développe en externalisant, et pas seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. Ça permet d'augmenter la compétitivité, et comme la mondialisation est heureuse, ça permet des gains de pouvoir d'achat, puisqu'on peut acheter des produits fabriqués à l'étranger pour moins cher, et donc avoir plus de produits avec la même quantité de revenus. Alors évidemment, c'est un argument qui n'est pas idiot, c'est un argument qu'il faut évidemment prendre avec des pincettes, puisque ça augmente le pouvoir d'achat de tout le monde, mais ça fait rien pour les gens ça leur fait une belle jambe, les gens, d'avoir un petit peu plus de pouvoir d'achat quand ils ont perdu leur emploi et qu'ils se retrouvent en fin de droit à vivre au RSA. Et on peut aussi indiquer quelques limites à ce raisonnement-là. Il peut y avoir un vrai problème économique à la désindustrialisation. L'industrie, ça représente en France 3/4 des exportations. Donc le déclin de l'industrie, ça veut dire aussi l'augmentation du déficit commercial. Parce qu'il faut quand même pouvoir exporter pour importer. Et donc si on a une perte de compétitivité qui est importante, et ce qui semble quand même être le cas en France, ça peut entraîner à long terme une baisse de la dynamique et de l'activité économique. Si je prends des exemples extrêmes, les pays du sud de l'Europe, c'est ce qui s'est passé pour une partie. C'est-à-dire que c'est la perte de compétitivité. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il y a cet aspect de perte de la compétitivité qui a entraîné une crise générale, aggravée évidemment par l'austérité liée à l'euro, et je reviens pas sur ce qui a été dit tout à l'heure et très bien dit. Alors il y a toujours aussi un argument qui pourrait consister à inverser ça en disant, mais en pratique, on a des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis qui sont en déficit commercial en permanence, et en fait c'est compenser le déficit commercial par une augmentation des investissements qui viennent de l'étranger. Autrement dit, on peut importer beaucoup parce que on a beaucoup d'argent qui vient de s'investir dans ces pays-là. Et en même temps, une diminution trop importante de l'industrie peut entraîner aussi un autre problème qui à long terme peut devenir vraiment très problématique pour la compétitivité, c'est une baisse de savoir-faire. Autrement dit, quand on perd tous ces champions industriels, comme c'est le cas depuis quelques années de la France, on risque de perdre les ingénieurs, les savoir-faire des ingénieurs, on risque de perdre un certain nombre d'infrastructures importantes. Si je prends un exemple extrême, et je voudrais pas parler spécialement de Vladivostok, mais quand l'URSS s'est écroulée, la perte de compétitivité a entraîné la fermeture d'industries nombreuses et des pertes de compétitivité importantes. Alors, quelle solution? Ben, il y a la solution standard, la solution Macron, la solution du discours dominant. On améliore la compétitivité en diminuant le coût du travail, en flexibilisant le code du travail, en investissant dans la recherche et dans le développement. C'est la solution Macron, c'est ce qu'on va entendre sur BFM TV, c'est ce qu'on va entendre chez tous les économistes dominants. On voit bien que ça peut avoir une certaine efficacité si on prend l'Allemagne par exemple, et en même temps, c'est porteur d'énormément d'inégalités sociales. C'est le cancer qui détruit l'économie moderne. Une autre solution, c'est la solution Trump. Et la solution Trump, c'est le protectionnisme. Abandonner plusieurs projets de libre-échange, instaurer un droit de douane sur l'acier et l'aluminium, et puis là récemment instaurer les droits de douane sur les produits chinois. L'objectif affiché,
et sur les Mexicains,
je vais pas rentrer dans le détail, protéger les ouvriers. Ça se défend quand on constate qu'il y a eu une diminution de l'espérance de vie dans les zones où il y a eu des usines qui ont fermé à cause de la concurrence chinoise, et en même temps c'est un protectionnisme de droite. Et c'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vue d'ensemble de la politique de Trump. D'un côté, il fait ses mesures protectionnistes. De l'autre côté, il a baissé les impôts sur les sociétés et sur les profits pour les copains. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec cette chose assez extraordinaire, que d'un côté, on a du protectionnisme qui va entraîner une légère augmentation du coût de la vie, qui va être payé par l'ensemble des Américains et qui va être récolté par l'État et qui va pouvoir payer les diminutions d'impôts sur les plus riches. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un bon protectionnisme? Je laisse la porte ouverte à toutes les possibilités. Protectionnisme de gauche.
Protectionnisme solidaire.
Et écologiste.
Et sur ces belles paroles, on termine l'émission. On remercie notre invité Frédéric Vial d'être venu nous parler d'une autre Europe. On remercie nos chroniqueurs Marie, Alex à l'interview, Gaël aux chroniques d'actualité, Jean-Marc à la technique, Ludo. On fait un petit coucou à Jean-Yves. Et on termine en écoutant Plenty de Gourou and Erika Badu. She wants plenty, she gets plenty.